Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les armes spirituelles du chrétien. Dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Nous sommes tous engagés dans un combat spirituel depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Alors, on a changé de royaume. On appartenait au royaume des ténèbres, et maintenant nous faisons partie du royaume de Dieu. Mais le diable fait tout pour récupérer ceux qui ont quitté son royaume, qui sont maintenant enfants de Dieu, et il va les attaquer. C'est Jésus lui-même qui dit que le diable n'a aucune pitié, dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà dans quel combat nous sommes. C'est un combat puissant, c'est un combat spirituel. Peu de chrétiens, finalement, réalisent l'ampleur du combat dans lequel nous sommes. Ils ne s'en soucient pas. Peut-être ils ont même délaissé la prière quotidienne, et nous savons combien c'est important de prier chaque jour. Peut-être ils ont délaissé la prière en couple, et combien c'est important, quand vous êtes marié, d'avoir un temps chaque jour pour présenter au Seigneur votre famille. Peut-être ils ont même délaissé le culte de famille, ne prient plus avec leurs enfants. Et tout cela, ce sont des brèches que l'ennemi va utiliser pour s'infiltrer dans les foyers. Alors, les chrétiens négligents pensent que, vu qu'on est chrétien, rien ne pourra nous arriver. Dieu nous garde. Et c'est un peu le sommeil spirituel qui domine. Mais Pierre nous rappelle ceci, qu'il faut veiller dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà son attitude. Il cherche toujours qui il pourrait dévorer. Ça, c'est l'attitude du diable. Mais l'attitude du chrétien, c'est veiller. Et le premier terme, c'est soyez sobres. J'ai regardé dans d'autres versions. Parce que dans l'original, en fait, ce qui est traduit par « soyez sobre » ici, c'est être calme et concentré d'esprit. Alors, la version Semeur traduit « ne vous laissez pas distraire » au lieu de « soyez sobre ».« Ne vous laissez pas distraire ».« Soyez vigilant » à la place de « veiller ». On comprend mieux peut-être cette traduction. « Ne vous laissez pas distraire » parce que le diable a semé toutes sortes de distractions pour vous égarer, pour vous éloigner du combat spirituel, et soyez vigilants. Donc l'action du diable ne diminue pas, il ne se fatigue pas avec le temps, il ne se lasse pas malgré les échecs qu'il rencontre, parce que bien, quand nous sommes dans la prière, dans la foi, il est dans l'échec, mais il recommence. Et si vous ne veillez pas, c'est lui qui prendra le dessus, parce que c'est son désir, et lui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il travaille à cela. C'est pourquoi nous devons veiller et prier chaque jour pour être gardés dans la main de Dieu. Quelques enseignements ressortent de ce passage, Éphésiens chapitre 6. Tout d'abord, le verset 10. Le premier enseignement que je vois, c'est Paul nous demande de nous fortifier, mais dans le Seigneur. Se fortifier dans le Seigneur. Parce qu'en fait, frères et sœurs, vous ne pourrez pas trouver de force spirituelle ailleurs que dans le Seigneur. Certains chrétiens se sont affaiblis parce qu'ils ont cherché ailleurs que dans la parole, ailleurs que dans le Seigneur. Ils ont cherché à se fortifier par d'autres moyens et finalement ils sont affaiblis. Et Jérémie 2,13 le dit parce que ça a toujours été une tendance de chercher ailleurs qu'en Dieu, de chercher des solutions, de chercher à être fortifié. « Car mon peuple a commis un double péché », c'est Jérémie qui parle. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, mais des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà quelqu'un qui cherche ailleurs. Il va se creuser des citernes, il va chercher des solutions, il va tenter de se fortifier d'une manière ou d'une autre, mais ces citernes sont crevassées. Ce n'est pas là que vous aurez les forces spirituelles, ce n'est pas là que vous pourrez grandir. Donc Dieu est la seule source de notre force spirituelle. Et pour devenir fort spirituellement, bien, vous devez développer une communion avec Dieu. Plus vous allez être en communion avec Dieu, plus cette force spirituelle va venir. C'est le prophète Ésaïe qui dit que c'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. La force, la source de la force, elle est en Dieu. Alors peut-être vous pensez qu'il suffit de se détendre, il suffit de se reposer quelques instants, peut-être de se distraire avec quelques émissions, à la télévision, sur Internet. Voilà ce que le monde propose pour se reposer. Et vous verrez que cela ne vous reposera pas spirituellement, parce que vos forces, en fait, sont uniquement en Dieu. Vous ne pourrez pas retrouver des forces spirituelles dans tout ce que le monde propose. Alors Jésus prend un exemple de la vie de tous les jours pour montrer l'importance de la communion avec lui. Dans Jean chapitre 15, verset 4, il va parler du cep et des sarments. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Voilà la force du chrétien. « Comme le sarment ne peut en lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi ». Alors, d'où vient la force du sarment ? La force du sarment vient du fait qu'il est attaché au cep. Le sarment, c'est l'image du chrétien. Le cep, c'est l'image de Christ. La force qui est la nôtre, qui est spirituelle, elle vient du fait que nous sommes en communion avec Christ. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il va mourir sur place. Si le chrétien n'est pas en communion avec Christ, il va se dessécher spirituellement, il va s'affaiblir et il va perdre toute force spirituelle. Donc nous comprenons, d'après cette parole de Jésus, que notre force vient de notre communion avec Christ. Et si vous ne développez pas cette relation avec Christ, eh bien vous serez affaibli et vous ne pourrez pas combattre le combat spirituel. Comment faire pour développer une communion avec Dieu ? Ben, d'abord, c'est de mettre le Seigneur en premier dans notre vie, dans notre agenda, d'avoir tous les jours un temps avec lui, de le prier, de lire la parole, de méditer. La méditation, ça prend toujours du temps. Et aujourd'hui, on me dit, oui, mais je n'ai pas le temps. Et c'est vrai qu'il faut dégager du temps. On a tous 24 heures dans une journée. Et donc, il nous faut trouver dans notre agenda du temps. Et ça, c'est à nous de le placer. Mais il faut faire un effort et mettre des priorités. Il y a peut-être des choses qui sont secondaires, on n'est pas obligé de faire, mais qu'on fait quand même parce qu'on aime bien les faire. Et puis, on n'a jamais le temps pour Dieu parce qu'on le met en dernière position. Mais si nous apprenons à le mettre à la bonne place, c'est-à-dire à la première place, nous trouverons toujours le temps, tous les jours pour lui. Soyez à l'écoute de Dieu, ça c'est aussi important quand vous priez. Demandez au Seigneur de vous révéler sa pensée, de parler à votre cœur, de déposer dans votre cœur des fardeaux, des besoins, et chercher sa face dans la prière. C'est ainsi que vous allez développer une communion avec Dieu. Cette communion va devenir vivante. Donc ça, c'est le premier conseil de Paul. Fortifiez-vous, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne cherchez pas ailleurs. Deuxième enseignement, il nous dit de revêtir maintenant toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu au verset 11. Alors Paul insiste sur la nécessité d'être bien équipé. Vous voyez, il y a un certain nombre d'armes, on en parlera tout à l'heure. En tout, il y en a 6. Et il ne faut pas négliger son équipement avant d'aller au combat. Chaque soldat, en fait, doit toujours vérifier qu'il a toutes les armes nécessaires pour aller au combat. Ce n'est pas une perte de temps parce que, par négligence, s'il n'avait pas vérifié, eh bien, il serait en danger sur le champ de bataille parce qu'il lui manquerait une arme. Ça peut être même fatal et il peut perdre la vie. Donc Paul évoque exactement 3 raisons pour lesquelles nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. La première raison, il dit, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et regardez comment le diable a agi avec Ève dans 2 Corinthiens 11:3. On retrouve cette ruse, cette séduction. Toutefois, de même que le serpent ici bien, a été un agent du diable pour réaliser son plan, le serpent séduisit Ève par sa ruse. On retrouve les ruses du diable dont il est question dans Éphésiens 6. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous connaissons cette histoire, la tentation. Ève était dans le jardin et le serpent s'est introduit, a séduit Ève par ses discours. La Bible dit qu'il s'est approché, pour lui parler et elle ne s'est pas méfiée, elle n'a pas remis en question les paroles du serpent. La première démarche du diable, c'est de s'approcher pour essayer de tenter. Il l'a fait avec Jésus. Le texte dit que le diable s'étant approché de Jésus, et il a commencé à lui parler pour le tenter. Donc, il va essayer de s'approcher pour tenter. Et puis, il va semer le doute dans le cœur d'Ève. La première question qu'il pose, c'est « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits de l'arbre du jardin ?» Dieu a-t-il réellement dit ? C'est-à-dire qu'il va semer dans le cœur le doute sur la parole de Dieu. Et peut-être vous allez commencer à douter et à dire, mais c'est vrai, est-ce que Dieu a vraiment dit ces choses? Ou est-ce que c'est moi qui ai compris ou mal compris? Il va chercher à vous rendre incertain, peut-être à vous faire hésiter, à vous faire reculer sur des positions que vous avez prises. Et puis, s'il arrive à semer le doute dans votre cœur, il va ensuite contredire la parole de Dieu, la déformer. Il dit à Ève, mais Dieu a dit que vous mourrez, mais vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. C'est là que Ève aurait dû résister en disant, si, Dieu a dit, il est écrit que, la parole de Dieu le dit. Et puis, enfin, s'il arrive à ses objectifs, il va laisser croire à votre cœur un avenir meilleur si vous désobéissez à Dieu. Il a dit à Ève, mais vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, ce sera extraordinaire. Et va faire passer le péché comme quelque chose de bon. Les mensonges du diable sont tellement énormes, et plus c'est gros, plus les gens y croient. Et même les chrétiens peuvent se laisser séduire, comme Ève, qui était croyante, mais qui s'est laissée séduire. Eh bien, Ève n'a pas veillé, et c'est pourquoi l'ennemi a trouvé dans son cœur des brèches qui ont permis d'y semer le doute, l'incrédulité, remettre en question la parole de Dieu, et nous connaissons la suite. Elle a pris de l'arbre, en a mangé, le péché est entré. Adam a aussi péché et le péché est entré dans le monde. Elle a même fini par désobéir en croyant que c'était bien. Elle voyait que l'arbre était bon à manger. Vous voyez comment l'ennemi peut déformer nos pensées alors que nous savons que c'est un péché. Manger du fruit de l'arbre, c'était un péché. Eh bien, le diable a réussi à faire voir à Ève cet arbre comme quelque chose de bon à manger, alors qu'elle savait que c'était mauvais. Voilà l'agissement du malin. Donc, c'est ça la première raison, c'est tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé, eh bien, nous devons être fermes dans la parole de Dieu et proclamer la vérité. La deuxième raison que Paul invoque, pour laquelle nous devons revêtir toutes les armes de Dieu, il dit, ça sera pour résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Personne n'aime le mauvais jour, mais tôt ou tard, il arrive sur notre route. Et peut-être vous avez une succession de jours favorables parce que Dieu a béni, Dieu a ouvert les portes. Voilà, gloire à Dieu. Mais on n'est jamais à l'abri d'un mauvais jour. Les choses tournent mal. Les portes se ferment. C'est pourquoi il nous faut être prêts, frères et sœurs. Et quand on est dans les bons jours, on se prépare pour les mauvais jours. Seuls ceux qui sont prêts, spirituellement, ils vont pouvoir résister dans le mauvais jour. Et le mauvais jour, il arrive. Seuls ceux qui ont toutes les armes de Dieu auront la force pour résister. Et ça, c'est un avertissement pour chacun de nous. Pour résister dans le mauvais jour, il nous faut avoir toutes les armes de Dieu. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison que Paul mentionne, il dit « Vous devez revêtir toutes les armes de Dieu pour tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y a de nombreuses raisons pour abandonner la marche avec Dieu. Peut-être vous avez été déçu d'un chrétien, peut-être Dieu n'a pas répondu à votre prière comme vous le vouliez. Vous êtes déçu, vous êtes amer, et tout cela c'est des raisons de dire « je lâche, je ne vais plus à l'église ». Mais seuls ceux qui ont toutes les armes de Dieu peuvent tenir ferme dans ces moments-là où il y a justement l'opposition qui survient. Alors quand on est ferme, on n'écoute pas ses impressions, on ne se laisse pas conduire par ses émotions ou ses sentiments, mais on reste ferme dans les promesses de Dieu et dans sa parole. C'est le seul moyen de résister dans les temps difficiles et de tout surmonter. Démas, par exemple, qui était un des collaborateurs de l'apôtre Paul, quand même un croyant engagé dans l'œuvre de Dieu. Il aimait le Seigneur, il était fidèle, il servait de tout son cœur, mais il n'a pas été ferme à un moment donné. Et l'ennemi, il rôdait autour de lui. Et à un moment donné, il a préféré quitter Paul par amour pour le siècle présent. C'est donc un manque de fermeté. Il n'a pas tenu bon alors qu'il y avait ces tentations. Le siècle présent, ses facilités, ses plaisirs, ils sont là, ils sont autour de nous. Mais si vous n'êtes pas ferme, mais comme Démas, vous allez quitter l'œuvre de Dieu, l'Église, par amour pour les choses de ce monde. Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas ferme et qui n'est pas résolu dans son cœur. Parce que si vous n'êtes pas ferme, l'amour du monde, lui, il est là pour vous entourer et vous amener dans le monde loin de Dieu. Donc vous allez commencer à regretter le passé, vous allez commencer à juger les uns, à critiquer les autres. Vous voyez, c'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, tout allait bien au début, ils étaient dans la louange, dans la foi, ils ont traversé la mer Rouge et tout s'est refermé sur les soldats égyptiens. Mais rapidement après, ils ont commencé à regretter l'Égypte et ils ont dit « Ah, en Égypte, on avait quand même du melon, il y avait de l'ail, il y avait de quoi manger. Ici, on est dans le désert, on manque de tout. » Et ils ont commencé à critiquer Dieu, à critiquer Moïse. Pourtant, ils venaient d'être libérés de 400 ans d'esclavage. Mais, comme ils n'ont pas veillé, comme ils n'ont pas entretenu leur cœur des choses de Dieu, eh bien, ils ont regretté le passé. Et ils ont voulu retourner en Égypte, alors que l'Égypte, c'est le lieu de l'esclavage. Donc, voilà quelqu'un qui ne tient pas ferme. Il laisse l'amour du monde rentrer dans son cœur et il quitte le Seigneur. Donc c'est pour ça que Paul nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu parce que c'est par ce moyen-là que vous allez tenir ferme contre l'amour du monde, contre ses passions, contre ses désirs qui sont là. Ensuite, troisième enseignement, c'est de ne pas se tromper de combat. Verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne nous trompons pas de combat. » Parce que vous pouvez vous épuiser en combattant un mauvais combat. Vous allez vous épuiser en luttant contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les autres. Ce sont des combats que Dieu n'a pas demandés. Et finalement, vous allez vous épuiser dans des combats contre la chair et le sang, contre les autres, et vous n'aurez plus la force pour les vrais combats, parce qu'il y a le vrai combat qui est là. On a des exemples dans la parole. Et l'ennemi utilise le combat contre la chair et le sang pour nous dévier du bon combat. On le voit avec David et Eliab. David qui est envoyé par son père sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses frères et ramener à son père les nouvelles. Donc il est venu avec des fromages, avec du grain rôti, il donne tout ça. Et à un moment donné, il entend parler de ce géant qui insulte le peuple de Dieu. Et il prend des renseignements et son frère se met en colère contre lui, son frère Eliab. Et là, on voit que c'est un combat contre la chair. Son frère Eliab lui dit, mais toi, à qui as-tu laissé le peu de brebis que tu as? C'est pour voir la bataille que tu es venu, tu es orgueilleux, il commence à le traiter. Et c'est là où David ne va pas tomber dans le piège du combat contre la chair. Parce qu'il y avait un autre combat qui était plus important pour lui, c'était Goliath, le géant Goliath. Derrière, il y avait un grand combat spirituel. Et à ce moment-là, la Bible dit que David lui a répondu calmement et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Voyez comment il a évité le combat contre la chair. Parce que si il s'était pris avec Eliab et qu'il avait tenté de se justifier, qu'il était parti et qu'il aurait perdu du temps et qu'il se serait épuisé dans un combat personnel, il n'aurait pas été prêt pour le combat qu'il attendait, qui est spirituel, qui est celui contre Goliath. Et voilà où nous sommes souvent en défaut, c'est que nous perdons du temps dans des combats secondaires, des combats contre la chair et le sang, des combats contre les autres qui nous fatiguent, qui nous épuisent, et après nous ne sommes pas prêts pour le vrai combat qui est spirituel. Nous n'avons plus les forces, nous n'avons plus les armes. Donc David n'est pas tombé dans ce piège. Si vous vous trompez d'ennemi, vous livrerez un mauvais combat, et c'est vrai, certains sont en conflit permanent avec des frères, avec des sœurs, dans l'église, dans la famille, au travail, ils se détruisent eux-mêmes, ils détruisent les autres. C'est un mauvais combat. Ils sont épuisés. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des combats inutiles. Ce sont des combats que le diable sème sur votre route pour vous perdre. Mais il y a un vrai combat qui est spirituel et qui est derrière. Les chrétiens de Corinthe, par exemple, se trompaient de combat. Pourtant, c'était des chrétiens. Mais leur combat, c'est qu'ils méprisaient Paul et son enseignement. Ils avaient des divisions entre eux, donc ils se combattaient les uns les autres. Ils étaient orgueilleux au sujet des dons spirituels. C'était encore un mauvais combat. Et Paul a dû les reprendre pour qu'ils marchent bien dans les voies de Dieu et qu'ils combattent dans la bonne direction. Donc Paul nous indique la direction du combat. C'est pas contre la chair et le sang, il dit, mais contre des dominations, des autorités, des princes dans ce monde de ténèbres. Nous comprenons que le combat est spirituel. Nos adversaires, qui sont-ils? Le diable, les démons, ils sont là, dans l'ombre, ils agissent comme une armée organisée, ils mettent tout en œuvre pour nous affaiblir dans la foi, pour affaiblir les églises. L'ennemi se déguise même, il s'infiltre parfois dans l'église parce que Paul dit que les ministres du diable, ils se déguisent en ministres de justice et ils essayent de saper l'église même de l'intérieur. Donc, on peut combattre dans l'esprit, mais il nous faut du discernement. Par exemple, Pierre, quand Jésus était sur le point d'être arrêté par les soldats après Gethsémané, il avait prié, il a voulu combattre avec ses armes et avec sa force. On pourrait dire un combat contre la chair, mais sans discernement. Il a pris son épée et il a voulu aider Jésus et il a coupé l'oreille d'un des personnes qui étaient là, qui s'appelait Malchus. Il lui a coupé l'oreille et ça, Jésus l'a arrêté, il a guéri l'oreille de cet homme parce que ce n'est pas avec ces armes-là et ce n'était pas de cette manière-là. Donc la bonne direction du combat, elle n'est pas charnelle parce que vous allez faire beaucoup de dégâts si vous combattez selon la chair, mais elle est spirituelle et c'est avec les armes de Dieu. C'est donc le quatrième enseignement de ce passage. C'est maintenant les armes efficaces pour le combat. On a compris qu'il ne faut pas combattre contre les autres, mais qu'il y a des puissances. Mais pour combattre ces puissances invisibles que sont le diable et les démons, il nous faut des armes spirituelles. Et donc, il va parler de 6 armes que tout chrétien doit porter, c'est-à-dire que si vous n'en avez que 5 parmi les 6, vous êtes déjà en danger. C'est comme si vous dites que vous n'acceptez que 99% de la parole de Dieu, mais pour 1%, vous dites « c'est pas grave ». Mais justement, le diable, il va passer par le 1%, par la faille, par l'endroit que vous avez négligé. Donc, pour ça qu'il faut les 6 armes, 100% des armes. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. C'est la vérité qui vous donnera de l'assurance face au malin. Nous devons marcher dans la vérité, c'est 2 Jean chapitre 4. J'ai été fort réjoui, c'est Jean qui écrit, de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Voilà la ceinture de la vérité. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. La vérité va vous donner une bonne conscience. Il nous faut cette arme parce que le diable est appelé le père du mensonge. Si vous n'avez pas la vérité en vous, eh bien lui va trouver des moyens d'infiltrer ses mensonges. Il est menteur, la vérité n'est pas en lui. Donc si vous êtes chrétien et que vous acceptez des petits mensonges pour couvrir une situation, pour arranger les choses, alors vous dites un petit mensonge, c'est pas grave. Mais c'est comme si vous n'aviez plus la ceinture de la vérité. Et vous ouvrez une brèche au malin, parce que lui, il aime ça, les mensonges. Un petit mensonge, c'est bon pour lui. Et il va trouver le moyen de s'infiltrer pour vous affaiblir et attaquer du côté le plus faible. Donc, un petit mensonge, c'est déjà, je perds la ceinture de la vérité, eh bien, je deviens fragile. Vous êtes en danger. Et même le diable utilisera vos mensonges contre vous, il les fera même retourner contre vous pour vous piéger. Ceinture de la vérité, première arme. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Alors la cuirasse, elle sert à protéger nos organes vitaux que sont le cœur, les poumons, les reins. On a besoin de cette arme parce que le diable, il attaque au cœur. Il attaque au cœur. Il sème des pensées de violence, d'amertume, de haine. Et si vous n'avez pas la cuirasse de la justice, votre cœur, ben, il est ouvert pour recevoir toutes les attaques de l'adversaire. Seule la cuirasse de la justice peut vous protéger efficacement. Elle vous rappelle que vous êtes juste aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la cuirasse de la justice. Vos œuvres de justice ne pourront jamais vous ouvrir la voie pour aller au ciel. Vous êtes justifié par la foi. C'est Paul qui dit dans Romains 5:1, étant donc justifié par la foi. Voilà la cuirasse de la justice. Nous sommes juste aux yeux de Dieu, non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, mais par la foi en son sacrifice. Nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez combien c'est important cette cuirasse de la justice pour vous protéger. Troisième arme, c'est les chaussures du zèle. Sans ces chaussures-là, bien vous serez vite limité dans vos actions. Les chaussures vont vous permettre de vous déplacer. Elles permettaient aux soldats d'aller sur tous les terrains, même les plus chaotiques. Mais sans ces chaussures, imaginez que vous avez des chaussures de ville pour aller dans des terrains où il y a de la boue, où ça glisse, eh bien vous ne pourrez pas avancer, vous serez constamment gêné. Donc ces armes pour avancer sont indispensables. Elle parle du zèle pour l'Évangile parce que c'est ça qui va vous donner la motivation au service de Dieu. Si vous n'avez pas ces chaussures, vous n'aurez pas le zèle, l'amour pour la parole, l'amour pour servir Dieu, et c'est l'amour du monde, et puis se tenir à l'écart qui va dominer. Avec ces chaussures, c'est le zèle. Et ce zèle qui est spirituel, c'est une énergie qui vient d'en haut et qui vous donnera cette force de servir et d'aller de l'avant. Alors, il y a des gens dans le monde qui sont zélés pour les choses de la terre. Vous voyez, les sportifs, ils sont capables de s'entraîner pendant des heures. Et ils le font pour une couronne corruptible, c'est-à-dire pour une médaille, pour la gloire des hommes. Et nous, les chrétiens, on ne ferait pas cet effort de se préparer, de prier, de lire la Bible, de s'entraîner, alors que c'est pour des choses glorieuses. Ça, c'est le zèle. Si le zèle n'est pas entretenu, il va disparaître avec le temps. Vous savez, Jésus parle des tièdes. Il dit, les tièdes, c'est un problème. Il dit dans Apocalypse 3:16, « Ainsi parce que tu es tiède. » C'est-à-dire, il n'a pas ses chaussures du zèle de l'Évangile. « Tu es tiède, tu es devenu tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, mais la conséquence, je te vomirai de ma bouche. » Vous perdez la communion avec Dieu. Donc, vous vous affaiblissez spirituellement. Sans les chaussures du zèle, vous allez devenir tiède, et puis finalement, vous n'aurez plus envie de rien faire dans l'œuvre de Dieu, et vous allez vous mettre en retrait. Et puis finalement, vous perdez la communion avec Christ et finalement, c'est l'ennemi qui domine. Donc cette arme est vraiment importante. Les chaussures du zèle. Ensuite, une autre arme, c'est le bouclier de la foi. Quatrième arme, le bouclier de la foi, combien c'est important. Le bouclier qui nous protège des traits enflammés. Alors, ce sont des flèches en fait, les flèches enflammées du malin. Eh bien, le bouclier de la foi permet de les arrêter. Donc le diable, lui, ne faiblit pas dans ses attaques, il est en train de tirer des flèches, il tire des flèches enflammées. Donc si vous n'avez pas le bouclier de la foi, ces flèches vont vous percuter, elles vont vous atteindre. Et vous êtes une proie pour l'adversaire. Ce sont des flèches enflammées. Alors, si ces flèches enflammées vous atteignent, eh bien vous allez finir par croire davantage les paroles du malin que les paroles de Dieu. Lui, il va vous accuser par des flèches enflammées, il va vous dévaloriser, il va vous faire douter de Dieu, et il va tirer ses flèches, et si vous les recevez, vous allez commencer à vous affaiblir. Donc le seul moyen de résister à ces traits enflammés, c'est le bouclier de la foi. Mais même si vous avez le bouclier de la foi, lui, il continue à tirer ses traits enflammés. Ce qu'il vous faut, c'est le bouclier de la foi. Lui continuera toujours. Mais si vous avez le bouclier de la foi, vous êtes bien armé. Et la prière, c'est une arme puissante associée à la foi. Matthieu chapitre 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Voilà comment nous devons prier, frères et sœurs, en y ajoutant la foi. La foi, c'est une arme qui va rendre nos prières efficaces. Cinquième arme, c'est maintenant le casque du salut. Nous savons que le casque, il protège la tête où circulent toutes nos pensées, qui vont parfois dans toutes les directions. Et si vous n'avez pas le casque du salut, vos pensées vont vous entraîner très loin de Dieu. Donc, les casques du salut, ça va vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu, que vous appartenez au Seigneur et que vous êtes dans l'armée du Seigneur. L'enfant de Dieu doit maîtriser ses pensées, avoir le casque du salut. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà comment nous devons régler le problème des pensées qui voyagent, c'est les amener captives à l'obéissance de Christ. Nous avons le casque du salut, c'est cela qui va nous donner de la force. Le salut nous a été acquis par grâce, et ce casque vous rappelle que vous êtes sauvés par grâce, que vous êtes enfants de Dieu, et que vous n'avez pas à douter de votre salut, parce que celui qui doute de son salut, qui ne sait plus s'il est sauvé, s'il est perdu, s'il n'a pas l'assurance du salut, eh bien il va s'affaiblir spirituellement. Donc ce casque, il vous donne de l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. Et enfin, la sixième arme, qui est la seule arme offensive, c'est l'épée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'arme qui nous permet d'attaquer l'adversaire. Parce que les autres armes nous protègent. Le bouclier, le casque, la cuirasse, tout ça, c'est pour nous protéger. Mais pour répondre à l'adversaire, pour l'attaquer, eh bien, c'est l'épée. Et nous savons que l'épée, c'est la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas cette arme-là, alors vous, certes, vous serez protégé, mais vous ne pourrez pas répondre, vous ne pourrez pas attaquer. C'est le cas des chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas l'épée de l'esprit. Mais quand vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, vous connaissez un verset, vous l'avez dans votre cœur, vous sortez l'épée de l'esprit et vous pouvez faire reculer l'adversaire. C'est le moyen de faire reculer le diable. Citez la parole de Dieu. Donc, connaissez-la, ayez-la dans votre cœur. C'est bien de connaître des versets par cœur, de les avoir là dans notre cœur et de les proclamer dans le combat spirituel. Quand vous proclamez la parole de Dieu dans la foi, l'ennemi est obligé de reculer. C'est l'épée de l'esprit qui agit. Il faut y ajouter la foi, bien sûr. Comprenez bien que la parole de Dieu sans la foi ne suffira pas, parce que le diable lui-même est capable de citer la parole de Dieu pour la déformer. Donc, quelqu'un qui dit la parole de Dieu mais qui n'y croit pas vraiment, ce n'est pas l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est efficace quand vous citez la parole dans la foi. C'est ça que le diable craint. Si vous citez la parole de Dieu avec foi, là, il ne peut pas rester. C'est une puissance. Il ne peut rien faire. Il est obligé de fuir. Et là, vous pouvez résister avec une foi ferme. Donc, ayez des versets dans votre cœur. Et puis, je termine avec un dernier enseignement que je tire de ce texte. C'est Paul, après toutes ses armes et après nous avoir montré les enjeux du combat, la direction du combat, ne pas se tromper de combat, il nous dit de prier dans l'esprit. Vous voyez, c'est au verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il insiste sur la prière par l'esprit, déjà d'être régulier dans la prière, parce qu'il dit en tout temps, pas simplement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Parce que vous pouvez avoir toutes les armes de Dieu sans les utiliser. Et la prière par l'esprit, c'est ça qui va déclencher l'utilisation de ces armes. Ailleurs, Paul dit « priez sans cesse ». Alors, prier par l'Esprit, ça veut dire, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. Seigneur, inspire-nous, dirige-nous par ton Esprit dans nos prières. Jacques même dit que nous pouvons tellement mal demander que nous demandons pour satisfaire des passions, pour satisfaire la chair. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu, prier dans l'Esprit, prier pour que l'Esprit conduise nos prières dans les bons sujets, parce que si vous êtes en communion avec Christ, l'Esprit mettra dans votre cœur les sujets qui sont les plus appropriés selon les besoins. Et Paul recommande aussi la prière en langue ailleurs, par exemple dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit que c'est bon de parler en langue. Et si vous priez, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez prier en langue. Parce que c'est un moyen qui vous permet de dire des mystères à Dieu. Vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais en tout cas, vous dites des mystères à Dieu et vous priez selon la volonté de Dieu. Quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. En priant en langue, c'est le Saint-Esprit qui dirige les sujets de prière. Et vous priez dans les bonnes directions. Et même Paul dit, moi je prie en langue plus que vous tous, aux Corinthiens, pour montrer que dans ces temps de prière, il avait un espace pour la prière en langue, parce que c'est la prière par l'Esprit. Et c'est dans son culte personnel. Alors en conclusion, on a vu ici les armes spirituelles. Dès que vous devenez chrétien, sachez-le, vous êtes entré dans un combat spirituel. Et il ne faut pas le minimiser, il faut revenir à Éphésiens 6. Bien méditer sur les armes de Dieu, se préparer, vérifier qu'on a bien toutes les armes, les 6 armes. Une négligence, une arme négligée dans ce domaine peut être fatale, parce que rappelez-vous ceci, c'est que le diable, il attaquera toujours par le point faible. Même si vous avez 5 armes bien entretenues, prêtes au combat, c'est l'arme, c'est la faille qu'il va chercher. Donc la négligence peut être fatale. Le combat ne diminuera jamais avec le temps, parce que le diable est toujours déterminé à nous perdre. Par conséquent, c'est à nous de nous fortifier dans le Seigneur, par sa grâce toute puissante. Les combats sont toujours là, mais vous n'allez pas les craindre, parce que si vous vous fortifiez dans le Seigneur, votre force va augmenter. Et lui, il va continuer à envoyer ses traits enflammés, mais vous avez le bouclier de la foi, vous êtes protégé. Donc n'ayez aucune crainte. Mais c'est impératif de se fortifier dans le Seigneur, de développer cette communion avec Christ et d'avoir toutes ses armes. Si vous faites votre part, en tout cas, Dieu fera la sienne. Il a promis de veiller sur nous. Nous sommes ses enfants. Préparons-nous dans la prière. Dieu combat avec nous. Il intervient pour nous en faveur de ses bien-aimés. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que toutes ces armes sont à notre disposition et que c'est un réel combat spirituel que nous avons à mener. Oh, non pas contre la chair et le sang, ne nous trompons pas de combat encore. N'allons pas perdre du temps dans des combats vains et secondaires. N'allons pas nous épuiser à chercher à nous justifier nous-mêmes ou à combattre contre des personnes. Mais comprenons dans quel combat nous sommes, avec discernement, avec l'assistance de ton esprit, afin de comprendre, Seigneur, dans quelle guerre nous sommes engagés, qui est spirituelle. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là, pour que tu les fortifie dans ta présence, que tu les bénisses. Merci de nous faire prendre conscience de toutes ces armes à notre disposition. Nous voulons les utiliser dans la foi, nous ne voulons en négliger aucune. Et je te prie, Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun et que nous puissions remporter des victoires dans les combats que nous menons pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les couples, pour toutes les situations. Ô Seigneur, nous te remettons, Seigneur, nos vies entre tes mains et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.